Kaufmännische Berufsmatura 2012, Französisch Hörverstehen. An alle Aufsichtspersonen, verteilen Sie jetzt die Frageblätter zum Prüfungsteil Hörverstehen. Sie haben dafür 2 Minuten Zeit. Die Kandidatinnen und Kandidaten schreiben ihren Namen, Vornamen usw. so aufs Deckblatt. Achtung! Erst wenn auf dem Tonträger Französisch gesprochen wird, dürfen die Fragen auf den Aufgabenblättern gelesen werden. Maturité professionnelle 2012, compréhension auditive. Bonjour à toutes et à tous. Nous vous souhaitons la bienvenue à l'examen de compréhension auditive. Texte A. Interview avec Magat Ndiaye, musicien sénégalais. Vous entendrez l'enregistrement 2 fois en une partie. Vous avez maintenant 1 minute et 30 secondes pour lire les questions aux pages 1 et 2. Première écoute du texte A.
Bonjour, Magat Ndiaye. Comment êtes-vous arrivé en Suisse?
Un peu par hasard. À l'âge de 20 ans, j'ai accompagné un groupe de musique pour représenter le Sénégal aux Rencontres folkloriques de Fribourg. C'était en 1994. J'y ai fait une rencontre décisive. On m'a proposé d'être musicien à l'école Afro-Rythme Danse à Fribourg. Je me suis dit, pourquoi pas? Ça a été le point de départ pour d'autres rencontres professionnelles qui m'ont ouvert des voies. 5 ans plus tard, j'ai participé comme percussionniste à la World Music Exhibition à Berlin, en 2002 à l'Expo 02. Ensuite, j'ai été en tournée au Brésil, en Allemagne et en Suisse. J'ai aussi eu la chance de collaborer à la musique des films Die Weiße Maasai et Nirgendwo in Afrika. 3 ans après la fondation de mon groupe de musique Bay Magat, en 2007, on a pu jouer au Festival de Jazz de Montreux.
De quoi parlent vos chansons?
De la vie de tous les jours, de ce que je vois à travers mes voyages, des histoires qui se passent entre les gens. Mon 3e album est sorti en juin 2011 et s'intitule « Djem ». Ça veut dire « motivé » en Wolof, l'une des langues du Sénégal. Je parle de quelqu'un qui est motivé mais qui n'a pas beaucoup de chance. C'est une histoire qui s'adresse à tout le monde. C'est important pour moi de transmettre ce genre de message. Je viens d'une famille de griots.
Et être griot, qu'est-ce que ça veut dire?
Les griots racontent des histoires, imaginaires ou réelles, et ils font de la musique. C'est un mélange d'historiens et de troubadours, donc une tradition exclusivement orale. J'ai grandi dans une famille qui a cultivé une grande liberté afin de développer sa personnalité artistique. Mes frères et moi avons été formés par mes parents et mes grands-parents. Ils nous ont appris leurs histoires et la musique, mais aussi la chanson et la danse.
Vous retournez chaque année quelques mois au Sénégal, où vivent votre famille et vos enfants. Mais vous avez tous vos amis en Suisse. Vous ne vous sentez pas tiraillé parfois entre ces deux cultures?
Depuis quelque temps, j'ai du mal à quitter la Suisse. Quand je reviens après 2-3 mois, il me faut reconstruire ce que j'ai laissé. D'un autre côté, le Sénégal, bien sûr, c'est la terre d'où je viens, c'est là que j'ai mes racines. Et je tiens à ce que mes enfants reçoivent l'éducation des griots.
À l'heure où l'UDC, le parti de Christophe Blocher, marque le paysage politique du pays, n'est-ce pas trop dur de vivre en Suisse? Avez-vous déjà été victime d'actes racistes?
Oui, un jour, à la gare de Berne, j'ai été poussé par un Suisse. Je n'ai rien fait. Il avait l'âge de mon père et j'ai été élevé dans le respect des aînés. Bien sûr, il y a les tracasseries des contrôles douaniers, mais ce qui m'a vraiment fait mal, c'est l'affiche des moutons noirs avec laquelle l'UDC diffame les immigrants. À ce moment-là, j'ai regardé autour de moi et j'ai vu des amis qui étaient contre tout ça et ça m'a consolé.
Et les Suisses, comment les voyez-vous?
Je ne peux pas lire leurs visages. Ils sont souvent fermés, on ne sait pas ce qu'ils pensent. En Afrique, on montre beaucoup plus ses émotions. Mais ce sont des gens très fiables. On peut compter sur eux. Et bien sûr, ce qui m'a aussi frappé ici, c'est la propreté. Et aussi la solitude. Tous ces gens qui vivent seuls, c'est un peu triste. J'ai grandi dans une maison où on était 60. On prenait les repas ensemble. On dormait à 5 dans une chambre.
Vous êtes musulman pratiquant. La religion est-elle importante pour vous?
Oui, très. Ça me calme quand je fais mes prières. Ce sont des instants de méditation précieux. De penser à son Dieu, à soi, à ce qui se passe autour, ça donne de la force. Quand ça ne marche pas comme je voudrais, je m'en remets à Dieu. Chaque fois que ça a été dur, j'ai vu une petite étoile qui m'a réconforté. C'est très difficile ici de vivre de la musique. Les tentations sont grandes car la Suisse est un pays riche et parfois on aimerait aussi avoir plus. Mais je me bats, je donne des cours, je m'investis dans ma musique. Je me contente de ce que j'ai. C'est quelque chose qu'on m'a inculqué et c'est très important.
Merci beaucoup pour l'interview.
Vous avez 1 minute pour répondre aux questions des pages 1 et 2. Deuxième écoute du texte A.
Bonjour, Magaté Ndiaye. Comment êtes-vous arrivé en Suisse?
Un peu par hasard. À l'âge de 20 ans, j'ai accompagné un groupe de musique pour représenter le Sénégal aux rencontres folkloriques de Fribourg. C'était en 1994. J'y ai fait une rencontre décisive. On m'a proposé d'être musicien à l'école Afro-Rythme Danse à Fribourg. Je me suis dit, pourquoi pas? Ça a été le point de départ pour d'autres rencontres professionnelles qui m'ont ouvert des voies. 5 ans plus tard, j'ai participé comme percussionniste à la World Music Exhibition à Berlin, en 2002 à l'Expo 02. Ensuite, j'ai été en tournée au Brésil, en Allemagne et en Suisse. J'ai aussi eu la chance de collaborer à la musique des films Die Weiße Maasai et Nirgendwo in Afrika. 3 ans après la fondation de mon groupe de musique Baye Magat, en 2007, on a pu jouer au Festival de Jazz de Montreux.
De quoi parlent vos chansons?
De la vie de tous les jours, de ce que je vois à travers mes voyages, des histoires qui se passent entre les gens. Mon 3e album est sorti en juin 2011 et s'intitule « Djem ». Ça veut dire « motivé » en Wolof, l'une des langues du Sénégal. Je parle de quelqu'un qui est motivé mais qui n'a pas beaucoup de chance. C'est une histoire qui s'adresse à tout le monde. C'est important pour moi de transmettre ce genre de message. Je viens d'une famille de griots.
Et être griot, qu'est-ce que ça veut dire?
Les griots racontent des histoires, imaginaires ou réelles, et ils font de la musique. C'est un mélange d'historiens et de troubadours, donc une tradition exclusivement orale. J'ai grandi dans une famille qui a cultivé une grande liberté afin de développer sa personnalité artistique. Mes frères et moi avons été formés par mes parents et mes grands-parents. Ils nous ont appris leurs histoires et la musique, mais aussi la chanson et la danse.
Vous retournez chaque année quelques mois au Sénégal, où vivent votre famille et vos enfants. Mais vous avez tous vos amis en Suisse. Vous ne vous sentez pas tiraillé parfois entre ces deux cultures?
Depuis quelque temps, j'ai du mal à quitter la Suisse. Quand je reviens après 2-3 mois, il me faut reconstruire ce que j'ai laissé. D'un autre côté, le Sénégal, bien sûr, c'est la terre d'où je viens, c'est là que j'ai mes racines. Et je tiens à ce que mes enfants reçoivent l'éducation des griots.
À l'heure où l'UDC, le parti de Christophe Blocher, marque le paysage politique du pays, n'est-ce pas trop dur de vivre en Suisse? Avez-vous déjà été victime d'actes racistes?
Oui, un jour, à la gare de Berne, j'ai été poussé par un Suisse. Je n'ai rien fait. Il avait l'âge de mon père et j'ai été élevé dans le respect des aînés. Bien sûr, il y a les tracasseries des contrôles douaniers, mais ce qui m'a vraiment fait mal, c'est l'affiche des moutons noirs avec laquelle l'UDC diffame les immigrants. À ce moment-là, j'ai regardé autour de moi et j'ai vu des amis qui étaient contre tout ça et ça m'a consolé.
Et les Suisses, comment les voyez-vous?
Je ne peux pas lire leurs visages. Ils sont souvent fermés, on ne sait pas ce qu'ils pensent. En Afrique, on montre beaucoup plus ses émotions. Mais ce sont des gens très fiables. On peut compter sur eux. Et bien sûr, ce qui m'a aussi frappé ici, c'est la propreté. Et aussi la solitude. Tous ces gens qui vivent seuls, c'est un peu triste. J'ai grandi dans une maison où on était 60. On prenait les repas ensemble. On dormait à 5 dans une chambre.
Vous êtes musulman pratiquant. La religion est-elle importante pour vous?
Oui, très. Ça me calme quand je fais mes prières. Ce sont des instants de méditation précieux. De penser à son Dieu, à soi, à ce qui se passe autour, ça donne de la force. Quand ça ne marche pas comme je voudrais, je m'en remets à Dieu. Chaque fois que ça a été dur, j'ai vu une petite étoile qui m'a réconforté. C'est très difficile ici de vivre de la musique. Les tentations sont grandes car la Suisse est un pays riche et parfois on aimerait aussi avoir plus. Mais je me bats, je donne des cours, je m'investis dans ma musique. Je me contente de ce que j'ai. C'est quelque chose qu'on m'a inculqué et c'est très important.
Merci beaucoup pour l'interview.
Vous avez 1 minute pour répondre aux questions des pages 1 et 2.
Nous passons maintenant au texte B. Interview avec Patricia Schulz, directrice du Bureau fédéral de l'égalité entre femmes et hommes. Vous entendrez l'enregistrement en deux parties. D'abord, la première partie du texte B deux fois, et ensuite, la deuxième partie du texte B que vous allez également entendre deux fois. Vous avez une minute pour lire les questions et les affirmations de la page 3. Première écoute de la première partie du texte B.
Bonjour Patricia Schulz. Quel est le but de votre organisation? Comment procédez-vous pour faire changer les choses?
J'essaie de promouvoir l'égalité dans tous les domaines et de lutter contre toutes les formes de discrimination directe ou indirecte. Directe, car autrefois seuls les hommes pouvaient étudier à l'université. Indirecte, car on exigeait une taille minimale pour entrer dans la police. Les femmes étant en moyenne plus petites que les hommes, elles étaient souvent exclues. Cela n'est pas acceptable. Nous distribuons 4 millions de francs suisses d'aide financière pour les projets qui favorisent l'égalité des chances dans la vie professionnelle. Nous en avons déjà soutenu environ 400. Nous faisons de la formation, de la sensibilisation. Nous menons de nombreux projets et nous travaillons en réseau avec de nombreux partenaires privés et publics.
Et l'égalité salariale?
C'est une de nos priorités depuis la création du bureau en 1988. Nous avons édité une brochure qui permet aux femmes de comparer leur salaire à celui de leurs collègues masculins pour des activités équivalentes. Nous aidons aussi les salariés et les responsables hiérarchiques à se préparer aux entretiens annuels de qualification durant lesquels on discute souvent d'un salaire ou d'une promotion.
Où en est-on sur le chemin de l'égalité? La Suisse a été classée 10e dans le classement mondial du World Economic Forum sur l'égalité des chances. C'est une victoire pour vous?
On est sur le bon chemin. La Suisse a fait des progrès considérables depuis 40 ans. Jusqu'en 1971, les femmes ne pouvaient pas voter. Il fallait avoir fait son service militaire pour faire carrière dans certaines professions. Et les filles n'avaient pas accès à toutes les formations. Les jeunes d'aujourd'hui peuvent avoir l'impression que l'égalité est acquise. C'est vrai sur le plan des lois, mais c'est faux dans la pratique. Les faits et les statistiques nous montrent que les filles continuent de faire des choix de métiers très stéréotypés. L'égalité n'est pas quelque chose qu'on peut atteindre en un jour et se dire « mission accomplie ».
Aujourd'hui, les femmes sont confrontées au gros dilemme « carrière ou enfant ». Ce choix reste-t-il le gros problème des femmes?
Oui, avoir une vie professionnelle très intense est beaucoup plus facile pour un homme. La responsabilité du ménage et des enfants reste le domaine de la femme, même si les hommes veulent davantage y contribuer. Les familles sont confrontées à de nombreux obstacles en ce qui concerne l'organisation du travail, l'inflexibilité des horaires, le manque de garde d'enfants. De plus, les couples mariés doivent payer plus d'impôts que ceux qui ne le sont pas. Vous avez 50 secondes pour répondre aux questions et aux affirmations de la page 3. Deuxième écoute de la première partie du texte B.
Bonjour Patricia Schulz. Quel est le but de votre organisation? Comment procédez-vous pour faire changer les choses?
J'essaie de promouvoir l'égalité dans tous les domaines et de lutter contre toutes les formes de discrimination directe ou indirecte. Directe, car autrefois seuls les hommes pouvaient étudier à l'université. Indirecte, car on exigeait une taille minimale pour entrer dans la police. Les femmes étant en moyenne plus petites que les hommes, elles étaient souvent exclues. Cela n'est pas acceptable. Nous distribuons 4 millions de francs suisses d'aide financière pour les projets qui favorisent l'égalité des chances dans la vie professionnelle. Nous en avons déjà soutenu environ 400. Nous faisons de la formation, de la sensibilisation. Nous menons de nombreux projets et nous travaillons en réseau avec de nombreux partenaires privés et publics.
Et l'égalité salariale?
C'est une de nos priorités depuis la création du bureau en 1988. Nous avons édité une brochure qui permet aux femmes de comparer leur salaire à celui de leurs collègues masculins pour des activités équivalentes. Nous aidons aussi les salariés et les responsables hiérarchiques à se préparer aux entretiens annuels de qualification durant lesquels on discute souvent d'un salaire ou d'une promotion.
Où en est-on sur le chemin de l'égalité? La Suisse a été classée 10e dans le classement mondial du World Economic Forum sur l'égalité des chances. C'est une victoire pour vous?
On est sur le bon chemin. La Suisse a fait des progrès considérables depuis 40 ans. Jusqu'en 1971, les femmes ne pouvaient pas voter. Il fallait avoir fait son service militaire pour faire carrière dans certaines professions et les filles n'avaient pas accès à toutes les formations. Les jeunes d'aujourd'hui peuvent avoir l'impression que l'égalité est acquise. C'est vrai sur le plan des lois, mais c'est faux dans la pratique. Les faits et les statistiques nous montrent que les filles continuent de faire des choix de métiers très stéréotypés. L'égalité n'est pas quelque chose qu'on peut atteindre en un jour et se dire « mission accomplie ».
Aujourd'hui, les femmes sont confrontées au gros dilemme « carrière ou enfant ». Ce choix reste-t-il le gros problème des femmes ?
Avoir une vie professionnelle très intense est beaucoup plus facile pour un homme. La responsabilité du ménage et des enfants reste le domaine de la femme, même si les hommes veulent davantage y contribuer. Les familles sont confrontées à de nombreux obstacles en ce qui concerne l'organisation du travail, l'inflexibilité des horaires, le manque de garde d'enfants. De plus, les couples mariés doivent payer plus d'impôts que ceux qui ne le sont pas. Vous avez 50 secondes pour compléter vos réponses à la page 3. Nous passons maintenant à la deuxième partie du texte B. Vous avez une minute pour lire les questions et les affirmations de la page 4. Première écoute de la deuxième partie du texte B.
Les hommes ne sont pas toujours prêts à réduire leur temps de travail, ni d'ailleurs leurs employeurs.
Beaucoup d'hommes ont peur de ne pas pouvoir faire carrière et de passer pour peu sérieux. Je suis optimiste, je crois qu'il y a de plus en plus de jeunes hommes qui veulent autre chose qu'un travail à plein temps. Ils veulent plus de temps pour créer un équilibre entre leur vie professionnelle, familiale, sociale et sportive.
Quel est, selon vous, le rôle des médias par rapport à la sensibilisation à l'égalité entre femmes et hommes en Suisse?
Les médias ont une grande responsabilité pour tout ce qui concerne l'égalité en tant que projet de société. Il y a toujours plus de femmes journalistes, mais elles sont souvent actives dans les rubriques les moins prestigieuses, santé, culture, société. Surtout, elles sont très peu nombreuses aux postes importants. Finalement, il y a aussi la question du vocabulaire utilisé. Les médias veulent des affirmations claires et tranchées, d'où l'utilité des clichés. Les stéréotypes réduisent la réalité. Les mots détruisent et construisent la réalité. Par exemple, lorsque les offres d'emploi sont rédigées uniquement à la forme masculine, elles sont beaucoup moins attractives pour les femmes, même si celles-ci ont le profil adéquat pour le poste proposé. D'où l'importance d'utiliser le bon vocabulaire.
Vous avez accepté un poste comme experte à l'ONU. Vous partez avec quel sentiment ?
Avec une immense gratitude pour les années passées, d'avoir pu participer à cet effort collectif en faveur de l'égalité. Je pars avec la reconnaissance d'avoir toujours été soutenue par les différents chefs du département fédéral de l'Intérieur, Ruth Dreyfus, puis Pascal Couchepin et enfin Didier Burkhalter. Et puis, j'ai travaillé avec une super équipe. C'est très important de continuer à se battre pour l'égalité, même s'il y a des difficultés.
Merci pour l'interview.
Vous avez 50 secondes pour répondre aux questions et aux affirmations de la page 4. Deuxième écoute de la deuxième partie du texte B.
Les hommes ne sont pas toujours prêts à réduire leur temps de travail, ni d'ailleurs leurs employeurs.
Beaucoup d'hommes ont peur de ne pas pouvoir faire carrière et de passer pour peu sérieux. Je suis optimiste, je crois qu'il y a de plus en plus de jeunes hommes qui veulent autre chose qu'un travail à plein temps. Ils veulent plus de temps pour créer un équilibre entre leur vie professionnelle, familiale, sociale et sportive.
Quel est, selon vous, le rôle des médias par rapport à la sensibilisation à l'égalité entre femmes et hommes en Suisse?
Les médias ont une grande responsabilité pour tout ce qui concerne l'égalité en tant que projet de société. Il y a toujours plus de femmes journalistes, mais elles sont souvent actives dans les rubriques les moins prestigieuses, santé, culture, société. Surtout, elles sont très peu nombreuses aux postes importants. Finalement, il y a aussi la question du vocabulaire utilisé. Les médias veulent des affirmations claires et tranchées, d'où l'utilité des clichés. Les stéréotypes réduisent la réalité. Les mots détruisent et construisent la réalité. Par exemple, lorsque les offres d'emploi sont rédigées uniquement à la forme masculine, elles sont beaucoup moins attractives pour les femmes, même si celles-ci ont le profil adéquat pour le poste proposé. D'où l'importance d'utiliser le bon vocabulaire.
Vous avez accepté un poste comme experte à l'ONU. Vous partez avec quel sentiment ?
Avec une immense gratitude pour les années passées, d'avoir pu participer à cet effort collectif en faveur de l'égalité. Je pars avec la reconnaissance d'avoir toujours été soutenue par les différents chefs du département fédéral de l'Intérieur, Ruth Dreyfus, puis Pascal Couchepin et enfin Didier Burkhalter. Et puis, j'ai travaillé avec une super équipe. C'est très important de continuer à se battre pour l'égalité, même s'il y a des difficultés.
Merci pour l'interview.
Vous avez 50 secondes pour compléter vos réponses à la page 4. Fin de l'examen de compréhension auditive.